acteurs se connaissent, apprécient, il manque un lieu aujourd'hui. Donc, sous l'impulsion d'ailleurs des plus hautes autorités, on est en train de construire, alors ce n'est pas une initiative de l'ANSSI, hein, c'est vraiment une initiative collective, un tel campus cyber qui devrait se matérialiser par un lieu où on aurait enfin un point d'ancrage de ces questions de sécurité numérique en France. Voilà. Donc ça, c'est un très gros projet. Et il faut impérativement que ce projet soit le plus ouvert possible. Parce que si c'est uniquement un projet d'administration, ce n'est pas intéressant. Si c'est que des grands industriels, ce n'est pas intéressant. Si c'est que des start-up, ça existe déjà par ailleurs. C'est vraiment un petit peu tout ça qu'il faut être capable de mettre ensemble. Et la somme de toutes ces composantes, je suis persuadé que sera bien supérieure. Le tout sera bien supérieur à la somme des composantes, voilà, pour dire ça de manière un peu pompeuse. Donc ça, c'est quelque chose qui va être à suivre, à mon avis.
D'accord. Alors, on aurait pu parler de plein de choses et je pense qu'on en fera une seconde émission parce qu'il y a plein à dire. On aurait pu aussi parler donc de Health Data Hub, la plateforme qui va être annoncée pour développer l'intelligence artificielle dans les données de santé. Mais je vais en profiter pour annoncer qu'on a une émission consacrée à ce sujet-là, normalement le 17 décembre 2019. Donc, on en parlera à ce moment-là et d'autres sujets. Guillaume Poupard, en tout cas, je vous remercie. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Ou si...
Non, merci à vous. Je suis ravi d'être là. Et puis, à disposition pour continuer.
Très bien. Donc, je lance l'invitation pour la seconde émission en 2020. Donc, nous étions donc avec Guillaume Poupard, directeur général donc, de l'ANSSI, de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Toutes les références qu'on a citées, on va les mettre sur le site de l'april.org et causecommune.fm. Je vous souhaite une belle fin de journée, Guillaume.
Merci beaucoup.
On va faire une pause musicale. Nous allons écouter à nouveau Jazzar, Intruder, donc par Jazzar. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune,
93.1.
Donc nous avons écouté Intruder par Jazzar, donc disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de Cause Commune, causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique Pépite libre de Jean-Christophe Becquet, président de l'April. Le sujet du jour, Jean-Christophe, les polices libres n'ont pas mauvais caractère.
C'est un des objectifs de ma chronique, d'expliquer comment le logiciel libre, imaginé par Richard Stallman dès 1984, a progressivement inspiré des licences libres pour les textes, les images, les vidéos ou les bases de données. On trouve des pépites libres dans tous les domaines de la création. Et je voudrais montrer aujourd'hui que la protection octroyée par le droit d'auteur s'applique aussi pour les polices de caractère, qui sont une forme à part entière d'œuvre de l'esprit, et qu'il existe, là encore, de véritables trésors sous licence libre. Mais voyons d'abord pourquoi il est tellement important de disposer de polices de caractère sous licence libre. Richard Stallman explique à propos du logiciel libre que toutes les libertés dépendent de la liberté informatique. Elle n'est pas plus importante que les autres, liberté fondamentale, mais au fur et à mesure que les pratiques de la vie basculent sur l'ordinateur, on en aura besoin pour maintenir les autres libertés. Eh bien, je pense qu'il en va de même, d'une certaine manière, avec les polices de caractère. En effet, sans police de caractère libre, comment faire valoir sa liberté d'expression ou de communication à l'écrit sur un support informatique? Les typographes ont donc proposé une licence qui reprend les principes de libre utilisation, diffusion, modification et redistribution pour les polices de caractère. Cette licence, appelée Open Font License, OFL, permet l'utilisation de la police de caractère dans n'importe quel type de document. Elle autorise la copie de la police de caractère, y compris à des fins commerciales. Il s'agit d'une licence copyleft, c'est-à-dire qu'elle accepte les modifications, à condition que les versions dérivées soient redistribuées sous la même licence. On doit bien entendu créditer l'auteur de la version originelle. La licence OFL figure dans la liste des licences acceptées par la Free Software Foundation pour le projet GNU. Le fait qu'elle ait été reconnue comme compatible avec le contrat social de Debian, un acteur majeur parmi les distributions de logiciels libres, renforce son caractère de référence en matière d'éthique. On trouve sur le web des polices de caractère libre adaptées à tous les usages. Citons par exemple Libertine Fonts, une collection de polices multilingues sous licence OFL. Libertine Fonts offre une gestion avancée des ligatures, des fractions ou des indices exposants. Nina Pali, une artiste libre dont j'ai déjà parlé dans une précédente chronique, a partagé une police de caractère sous licence libre Creative Commons by SA pour permettre la traduction de ses dessins. J'aimerais citer enfin la police Data Alegria du studio Figs, elle aussi sous licence OFL. À l'heure où les objets connectés se répandent avec leurs afficheurs numériques, elle permet de rendre perceptible d'un seul coup d'œil l'évolution d'une mesure, par exemple une température. C'est un chef-d'œuvre de design appliqué à la typographie. Le wiki de l'April, dont vous trouverez l'adresse sur la page web consacrée à l'émission, référence plusieurs autres polices de caractère libres. Pour l'école, on peut citer la police AA cursive sous licence OFL également. Cette police est fournie avec une macro qui permet de gérer les ligatures. Cette dernière a d'ailleurs fait l'objet d'échanges sur la liste de discussion de l'April consacrée à l'éducation, car elle comporte un bug dans certaines situations. Le problème reste non résolu à ce jour. Je lance donc un avis aux contributeurs qui auraient la compétence technique pour aider. C'est libre, donc on peut modifier pour corriger.
Merci Jean-Christophe. Je suppose que ces polices libres sont pour la plupart installées par défaut sur les distributions GNU Linux.
Oui, oui, tout à fait. En tout cas, pour des polices comme Libertine, on a une autre famille de polices aussi qui s'appelle la famille Libération, qu'on trouve couramment dans les suites bureautiques libres et sur les distributions du Linux. Après, les polices plus techniques ou design sont plus réservées à des activités de création et de graphisme. Et donc, il faut faire la démarche d'aller les télécharger et de les installer sur son ordinateur.
Démarche qui est relativement simple et souvent est documentée.
Oui, c'est très simple. On télécharge un fichier. Il y a un format fichier standard supporté par les distributions Linux. Ça fonctionne également sur un système d'exploitation propriétaire si on utilise une figure optique libre et qu'on veut avoir des polices de caractère libre. Après, pour les polices qui ont des fonctionnalités plus avancées, comme par exemple la gestion des ligatures, effectivement, souvent, il y a une documentation associée. Et comme je l'évoquais, il y a la possibilité de solliciter les communautés du logiciel libre et notamment les listes de discussion de l'April pour obtenir de l'aide si on a un problème.
Ok, bah écoute, c'est super. Merci pour ta chronique. On se retrouve, donc c'était la chronique Pépite Libre de Jean-Christophe Becquet, président de l'April. On se retrouve en 2020.
Entendu.
Allez,
belle journée. Bonne année à tous. Bonne soirée.
Bonne soirée. Au revoir. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons donc terminer par quelques annonces. Alors, une annonce importante, sauvons le .org, april.org, framasoft.org, wikipedia.org. Le domaine .org, le domaine internet, concerne avant tout les organisations à but lucratif. Il est donc utilisé par de nombreuses associations. Ce domaine était géré jusqu'à présent par une organisation sans but lucratif qui s'appelle Public Interest Registry, détenu par l'Internet Society, une autre organisation en lien avec Internet.